Et je suis parti, je suis revenu avec ma vieille cheville, mais bon, ça va, je tiendrai. Nous avons eu des temps très agités ces derniers temps, ces derniers jours en France. Et fort de cela, je me suis posé la question, mais en réalité, qu'est-ce qui fait le secret, qu'est-ce qui fait la joie de ma vie présente? Quelle est ma consolation? Qu'est-ce qui fait que chaque dimanche, je quitte chez moi et je viens m'asseoir ici pour écouter un prédicateur? Au lieu de rester tranquillement chez moi, faire ce que j'ai envie de faire, jouer à la PlayStation. Mais bon, je vous propose trois lectures. Vous avez entendu parler de Tychus? Qui a entendu parler de Tychus ici? Où est Tich? Personne. Acte chapitre 20. Ah, c'est lui. Acte chapitre 20, à partir du verset 7. Vous avez trouvé? Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, l'apôtre, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom de Tychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit et se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain, mangea, parla encore assez longtemps, jusqu'à l'aube, après quoi il partit. On ramena vivant le jeune homme et ce fut une grande consolation. Deuxième texte, Éphésiens chapitre 1. Gardez ce texte, hein, parce qu'on reviendra dessus. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 21, ou verset 15. Éphésiens 1, verset 15. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, Éphésiens 1, 15, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur de Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens chapitre 2, verset 4. 4 à 9, juste à côté, Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a donné, dont il nous a aimé, pardon, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, vous connaissez la suite, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Question. Quel est le trait commun entre ces trois textes? Il y a un mot qui revient. Pardon? Non, par la grâce, par la résurrection. Non. Non, c'est une position. Si je peux vous aider. Non. Il nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes et ce jeune homme est assis où? Non, il est assis sur le bord de la fenêtre. C'est ce que dit le texte. Oui ou non? D'accord. On revient au chapitre 20 du livre des Actes. Imaginez un jour, un dimanche matin, vous arrivez ici, il n'y a pas de chaise, la salle est vide. On se dit, tiens, on a fait un zouk ici hier soir. Non, les chaises ont disparu. Malheureusement, on va devoir assister au culte pendant 2 heures, debout. Pourquoi c'est impossible? Vous assistez au match de foot debout. Vous restez causé après le culte 2 heures de temps à parler debout. C'est pas impossible. Mais je connais, c'est vrai qu'il allait dire, c'est inadmissible, c'est scandaleux. Je m'assieds par terre et dimanche prochain, je ne reviens plus. Et pourtant, on reste des heures debout à papoter. Mais ici, ce texte nous parle de cette position que nous devons avoir en Christ d'emblée. Aucun arbre ne porte de fruits sans être profondément ancré en Christ, en terre. Et nous devons être profondément ancrés en Christ. N'est-ce pas? Assis, bien assis. Et vous êtes certainement venu ce matin, vous êtes assis, vous ne vous êtes pas posé de questions pour la chaise. Vous étiez content de trouver une chaise et vous n'avez pas cherché à savoir s'il y avait 3 pattes ou 2 pattes. Jamais. Hein? Et qu'est-ce qu'on est content quand on trouve une chaise, une place assise? Surtout quand il y a cérémonie, on est devant, on peut filmer. On aime ça. Est-ce que quand tu pars de chez toi le dimanche matin pour venir ici, tu te dis, je vais rencontrer mon Seigneur, rencontrer des frères et sœurs, parce que je suis positionné en Christ. Ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur, ce n'est pas pour faire plaisir aux parents. Mais je me fais plaisir parce qu'il y a de la joie quand on me dit... C'est vrai qu'on peut rester chez soi et puis faire le culte. Mais c'est encore mieux parce que c'est une sainte convocation. Et donc, pardon, je me trompe peut-être, mais un bébé n'a jamais cherché à marcher debout avant de marcher, de s'asseoir, voire même de marcher, comme on dit chez nous, à 4 pattes. N'est-ce pas? Il s'assied d'abord. Et quand un enfant s'assied, on dit, ah, tiens, il s'assied, il tient debout, il tombe pas. Après, il se met debout dans son berceau. Après, il va chercher à marcher et à courir. Il va plus chercher à courir qu'à marcher. Mais l'histoire de Tychicus nous fera comprendre qu'entrer dans la vie chrétienne ne commence pas par marcher. Nous voulons marcher, nous voulons courir, nous voulons faire plein de choses, paraître aux yeux des autres, avant d'être assis en Christ. Vous comprenez la subtilité de ce que je veux dire? Commençons par être assis en Christ avant de faire. Avant de marcher, avant de courir. Luc nous raconte l'histoire de ce jeune homme, ou ce jeune garçon, où nous n'avons pas son âge. Nous n'avons pas non plus l'identité de ses parents. Et je dis tant mieux, parce que nous aurons cherché à critiquer les parents. Quel parent qui ne surveille pas son enfant qui va s'asseoir sur le rebord d'une fenêtre? Parce que c'est la chambre haute. 3e étage, il n'y avait pas plus de 3. Imaginez le vide en dessous, certainement ça fait 5 étages. Donc c'est dangereux. Et je connais des parents qui d'un seul regard auraient dit, viens t'asseoir là. Il y a de la place devant. Et peut-être que ce jeune homme est venu là, incognito. Il a vu un attroupement, il est monté, il a entendu parler de Paul, il est venu écouter. Mais peut-être aussi qu'il est venu parce que les parents ont dit, tu viendras écouter l'apôtre Paul. On ne sait jamais, tu as bien besoin comme beaucoup de parents nous ont dit par le passé, demain c'est dimanche, tes vêtements sont prêts, tu iras au culte. Et pas aller. Hmm? Non, on a envie d'aller chez un tel jouer PlayStation ou bien je ne sais pas quoi, mais bon, Dieu nous dit, tu es convoqué. Et les parents disent, tant que tu seras chez moi, quel parent qui n'a pas dit ça? Tant que tu es chez moi, tu viendras avec moi. Hmm? Et l'enfant n'a pas le choix. Hein? Parce que, bon, après tout, c'était point final quand les parents avaient dit ça. C'est peut-être toujours comme ça pour certains enfants. Ils viennent parce que les parents veulent qu'ils viennent. Mais sont-ils bien assis en Christ ou assis dans la religion? Et quand tu es assis dans la religion, tu n'es nulle part. Observons certains détails dans le texte, chapitre 20 du livre des Actes. Il avait dit que c'était une chambre haute, un orateur de passage, un grand orateur de passage. Et vous savez qu'on aime courir après les grands orateurs. Troisième chose, le discours de Paul était interminable. Quand même, Paul. Jusqu'à minuit, et plus tard jusqu'à l'aube. Il avait des choses à dire. Il était sur le chemin du départ et il savait qu'on ne le verrait plus. Et puis, quatrièmement, il y avait un assez grand nombre de lampes dans la pièce. Pardon. Et certainement, ce n'était pas des lampes LED, mais c'était des torches alimentées par des huiles, de l'huile, pardon, et ça dégageait certainement une odeur. À telle enseigne, ce jeune homme a estimé bon de ne pas s'asseoir là, mais il va respirer un petit peu l'air pur dehors. Mais peut-être qu'il y avait une longue journée de travail. Il y a des journées de travail qui sont difficiles. On parle de la pénibilité du travail, pour certains. Il a estimé, mieux vaut me mettre là et puis je ne vais déranger personne. Comme beaucoup de jeunes qui viennent au temple, on dit je m'assieds là, de toute façon, vous avez voulu que je vienne, je suis là, ne m'embêtez pas. Et combien de fois on a surpris des enfants assis au fond, en train de jouer. Ah, tu as voulu que je vienne, je vais suis là, laisse-moi tranquille. Donc, les parents ont voulu peut-être qu'ils viennent, ils s'est assis là, et puis ne m'embêtez pas. La question qui me vient à l'idée maintenant, c'est quel accueil je fais à ceux et celles qui rentrent ici le dimanche matin? Est-ce que nous faisons même accueil à tout le monde? Un regard, une salutation, un sourire, viens t'asseoir à côté de moi. Ou bien je me dis, chacun fait comme il veut, il y a de la place. Et vous savez que l'accueil compte parmi les nombreuses raisons qui font que quelqu'un vient, se souvient et revient. Accueillir quelqu'un. Accueillez-vous les uns les autres. Est-ce que ce jeune homme avait été accueilli? Est-ce qu'on lui avait tendu une chaise au moins? Au point qu'il s'est isolé sur la fenêtre. Mais le pire, ce n'est pas qu'il s'est assis là sur le bord de la fenêtre. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'est profondément endormi. Vous savez, on n'a pas besoin d'être assis sur le bord d'une fenêtre pour dormir. Hein? Je connais qui dorment debout, hein? Vous riez, mais j'ai un bouffet, il dormait debout. Il ne faut pas le déranger. Il y a d'autres qui dorment assis et ouf. Assis au temple et ouf. Si un jour, quelqu'un ouf à côté de vous, réveillez-le, ce n'est pas parce qu'il va tomber, hein, mais parce que Jésus revient. Et il risque d'être surpris, endormi, comme les 10 vierges folles, les sages. On s'endort parce qu'on est mal positionné. Et vous savez, la pire des positions, c'est laquelle? Assis entre deux chaises. Un pied dedans, un pied dehors. Parce que je suis là, mais bof. J'ai déjà entendu ça. Je connais ça. Et puis c'est le dimanche, c'est pareil. Et puis il n'y a pas de jeûne, et puis il n'y a pas de... Et puis il n'y a pas de... Et puis c'est... On cherche toujours des excuses. Mais ce sont peut-être toutes ces raisons-là qui ont poussé Eutychus à trouver une place ailleurs. J'écoute, mais bon... Cette histoire nous interpelle. Sommes-nous accueillants? Usons-nous de prévenance envers les uns et envers les autres? Ou bien je vais au culte comme je vais à la messe, je rentre, je prends comme une éponge, hein? Vous imbibez l'éponge, il est trempé et on repart jusqu'à dimanche prochain. On appelle ça des chrétiens DMS, dimanche matin seulement. La parole de Dieu nous invite à être vrai. Ce qui devait arriver, arriva. Hein? Eutychus fut pris de vertige. Parce qu'on peut tomber de vertige. Hein? Marès vagal, c'est autre chose aussi. Mais Luc dit, parce que Luc était un médecin, il fut profondément, un profond sommeil. Pris d'un profond sommeil, il bascula dans le vide et il fut relevé mort. Pas à peu près mort, hein, mais mort. Vous avez déjà piqué la tête en regardant un film? C'est rare. Parce que si au bout de 10 minutes le film vous embête, vous zappez. Assis dans le transport, oui. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Soit disant, je lisais un livre. Hein. C'est parce que j'ai entendu le bruit du livre. Tombé, je me suis réveillé. Ou parce que j'ai entendu la sonnerie de la porte du train qui allait se refermer. Mais ça arrive, on est fatigué. Mais assis au top en train d'écouter un prédicateur, c'est difficile. Mais Paul parlait. Vous connaissez ces prédicateurs qui parlent et qui ne s'arrêtent pas en disant quand est-ce qu'il va finir? Vous connaissez la différence hein, entre un train qui déraille et un prédicateur? Quand le train déraille, il s'arrête. Quand le prédicateur déraille, il continue. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein? Mais ça existe. Mais le Seigneur nous invite à être à l'écoute de sa parole. Et Luc dit qu'il fut relevé mort. Ça me fait penser à un événement qui s'est passé il y a quoi, même pas 9-10 ans. J'habitais Neuilly. Et vers 21h, on a entendu un bruit sec. On s'est dit, tiens, il roule vite, c'est un accident. Et on entendait des gens crier. Une jeune fille s'était défenestrée. 7e étage. Et on entendait son copain crier, pourquoi tu as fait ça? Et puis d'autres qui disaient, ne vous inquiétez pas, on a appelé les pompiers. Et lui, il criait en bas, mais il y a du sang partout. Bon, on ne sait pas si elle a été relevée morte ou bien si elle est en état de légumes. Mais c'était affreux. Ça a d'abord eu l'effet d'un choc. Et la situation veut que aujourd'hui nous sommes tiraillés, poussés à gauche et à droite. Et on se pose des questions sur notre avenir, sur notre lendemain. Nous souffrons physiquement, nous souffrons moralement, nous souffrons financièrement de plein de choses, plein de situations. Et nous oublions une chose essentielle, c'est que nous sommes assis en Christ. Mieux, nous sommes assis dans les lieux élevés. Nous avons les deux pieds dans la gadoue, dans la boue. Nous pataugeons. Mais c'est le déjà et le pas encore. Un peu comme on dit dans la technique théologique. Nous sommes sauvés. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous avons les deux pieds dans la boue. Mais nous sommes consolés. Ça devrait en tout cas nous consoler. Au lieu de nous laisser nous agiter par toutes sortes de situations. Ce jeune homme-là ne s'était pas suicidé. Il a juste été pris d'un profond sommeil et il a basculé. On pourrait épiloguer longtemps dessus, sur la question où comment es-tu assis? La position à cheval n'est pas mieux non plus. tu vas à reculons. Mais quand on veut bâtir une maison, dit la Bible, on cherche le bon sol pour une bonne assise, une bonne fondation. Autrement, on pourrait s'attendre au pire. Est-ce Christ ton fondement? Est-ce lui ta raison d'être? Ou c'est quelque chose d'autre? Ou quelqu'un d'autre? Tu vas autant pour quelqu'un, tu vas autant pour quelque chose. Et sur quoi t'appuies-tu pour dire que c'est Christ ton fondement? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as invité à entrer dans ta vie? Parce qu'on peut venir à tous les dimanches et s'asseoir et puis repartir à vide. Mais être assis en Christ signifie que je suis positionné, enraciné dans un bon sol. Ton fondement spirituel est-il assez solide pour résister aux assauts du malin et aux assauts de cette vie présente? Ou bien dès qu'arrive une tempête, tu prends la fuite, tu baisses les bras. Même si tu es passé par les eaux du baptême, une question se pose. Es-tu bien assis en Christ? J'en ai connu des gens qui sont passés par les eaux du baptême et qui ne sont pas nés de nouveau. Certainement vous aussi. Mais la réalité n'est pas dans le baptême. La réalité est en Christ. Vous me suivez? Il ne suffit pas d'être assis au temple. Il ne suffit pas d'être passé par les eaux du baptême et de dire ça y est, c'est fini. Il suffit d'être bien ancré, bien enraciné en Christ pour aller plus loin. Regardez les versets 10 et 12, acte 20. Paul descendit, se pencha sur Eutychus et dit, « Jeune homme, c'était stupide ta position. » C'est ce qu'il dit? Il aurait pu. Quelle idée! Tu as failli foirer ma soirée. Non, il se penche sur lui et il dit, « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, son âme est revenue en lui. » C'est l'expression littérale. Son âme est revenue en lui, ça veut dire qu'il est ressuscité. Parce que Luc, médecin, avait déjà déclaré qu'il était mort. Vous me suivez? Nous sommes au lendemain de la résurrection. Et la résurrection et la vie, c'est Jésus-Christ. Si je ne suis pas assis en Christ, je n'ai point d'espérance sur la résurrection. Amen? Et ça me fait penser à deux histoires dans le livre des Rois où le prophète Élie, le prophète Élisée se penchent sur un jeune homme, deux jeunes hommes, si vous voulez, chacun son tour. Et par sept fois, il se penche jusqu'à ce que l'enfant revienne à la vie. Lisez un roi et deux rois, chapitre 4. Et donc, la résurrection, c'est l'espérance, c'est notre consolation. Verset 12 dit, « Le jeune homme fut ramené vivant. » Et ce fut une grande consolation ou un grand réconfort. Ma consolation est en Christ. Elle n'est pas dans ce que pensent mes parents ou ce que les chrétiens pensent, mais ce que je pense en Christ. Il le prit dans ses bras et il dit pas de panique. Mais aujourd'hui encore, la résurrection est possible. Une grande consolation devrait m'animer chaque dimanche matin ou chaque samedi, chaque fois je devrais aller à la rencontre de mes frères et de mes sœurs. Parce que le Seigneur est là, il siège au milieu de nos louanges. Dimanche dernier, nous avons célébré la Pâque et nous nous sommes souvenus de la résurrection du Christ. Aujourd'hui, plus que jamais, la croix est au centre et devrait être au centre de notre vie chrétienne. Mais le tombeau vide aussi, parce qu'il est ressuscité, c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Et Eric disait, comment ne pas être reconnaissant envers quelqu'un qui nous a fait du bien? Christ nous a fait du bien, n'est-ce pas? Et donc je ne peux pas venir là et puis dire, ouais, bof, mais choisir d'être ancré en Christ. Je dois me souvenir de la croix. Jésus-Christ vit, donc je vivrai. C'est ce que Jésus disait à Marthe et à Marie. Hein. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vivras. Et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons voir la gloire de Dieu, mais nous la voyons déjà. Peut-être en chacun de nous. Peut-être dans ce qu'il fait dans ma vie chaque jour. Parce que nul ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. C'est ce que la Bible dit. Nul ne peut me voir et vivre. Mais tu vois. Je vois. Et chaque jour, je m'attends à voir des miracles dans ma vie. Job, qui n'avait encore rien vu, pouvait dire à l'époque, je sais que mon rédempteur est vivant. Et je reverrai. Est-ce que chaque jour je me lève, je me dis, tant pis pour les problèmes, tant pis pour les situations difficiles que je traverse, je sais que mon rédempteur est vivant et je reverrai. C'est pas ça notre réconfort? C'est pas ça notre consolation? Nous nous laissons écraser souvent par les situations de la vie présente. On parle de réforme, de retraite, et puis Seigneur, j'ai travaillé toute ma vie, et puis est-ce que je suis malade, et puis. Mais nous traversons tous presque les mêmes tempêtes. Et nous oublions l'essentiel. Nous sommes assis en Christ dans les lieux élevés. Parfois, je nous regarde et je ris et je dis, Dieu doit bien se moquer de nous. Mes pauvres enfants, vous n'avez rien compris. Et donc, nous devons apprendre à vivre l'essentiel. Quand, vous savez, peut-être ou pas, mais je travaille dans l'hôtellerie, et quand on dit à un client, tout est compris, ça veut dire quoi pour vous? Il ne paye rien. Il n'a rien à payer, tout est compris. Il ne cherche pas à payer, d'ailleurs, il dit, bye bye, au revoir. Et Jésus dit, tout est accompli. Et Ben Radili, tu étais resté ce matin. Tout est accompli, il n'y a plus rien à ajouter. Ma vie présente, ma vie passée, ma vie future, c'est assis en Christ, c'est scellé. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Quand on a mis le tampon, la signature, j'y ai rien à ajouter. N'est-ce pas? Je suis assis confortablement en Christ. Et après, me direz-vous. Retournons dans Éphésiens chapitre 1, verset 16. Éphésiens 1, 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qu'il vous le fasse connaître. Nous avons besoin de ça. Chaque jour, pour ressasser les paroles, nous souvenir que nous sommes au verset 20. Dieu a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Si Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui, n'est-ce pas? Amen. Si Christ est assis à la droite de Dieu, je suis assis aussi en Christ, à la droite de Dieu. Allô? La Bible dit, je suis caché en Christ, caché en Dieu. Si Christ est là-haut dans le ciel, je suis où? J'ai les deux pieds dans la boue ici, mais je suis déjà là-haut. C'est le déjà et pas encore. Je suis sauvé, mais en attendant d'être définitivement sauvé. C'est pas compliqué. Donc je dois arrêter de me plaindre. J'ai presque envie de vous dire ça. Mais je vous entends me dire, ah frère, t'es pas à ma place. T'es pas à ma place. Et chacun a son fardeau, chacun ses tribulations, chacun ses tentations, chacun ses séductions, chacun ses combats. Mais je suis caché en Christ, caché en Dieu. Je suis blindé. Et donc, dans tout cela, la Bible dit, nous qui étions morts, nous qui étions des enfants rebelles, des étrangers sans Christ, sans espérance, nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes. C'est ça notre avantage, c'est ça notre consolation, et cela ne devait être un secret pour personne. Ça veut dire, je dois le proclamer là où je suis. Je ne vais pas au temple parce que un tel m'a dit va au temple, mais je vais au temple parce que c'est mon réconfort, parce que je veux me nourrir aussi avec des frères et des sœurs. Nous étions tous dans une seule habitation, enfermés dans la désobéissance et dans le péché. Dieu nous a réconciliés en Christ. Voilà pourquoi le chrétien n'a pas le droit d'être raciste et puis d'être supérieur à un autre, puisque Dieu nous invite tous à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Nous souffrons, nous gémissons, mais nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Bien aimé, j'aurais aimé vous encourager à ne pas nous plaindre. Mais le Seigneur Jésus est celui qui sait toutes choses. La délivrance de Job était là, mais il fallait que Job passe par là pour mieux saisir les bénédictions et l'amour profond de Jésus-Christ, de Dieu. Aujourd'hui, les tempêtes, les situations ne sont pas là pour nous déstabiliser, mais pour nous ancrer davantage en Christ. Nous rappeler qui nous sommes. Des vainqueurs, des plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et donc ce que nous traversons, c'est, j'ai pas envie de dire Seigneur Niot, puisque chacun sait ce qu'il traverse. Mais c'est là pour nous affermir, pour nous rendre plus forts. Les temps seront difficiles, les jours à venir seront difficiles. Mais nos regards fixés sur Christ, le chef de notre foi, nous garderons ancré, stable, fort, plus un arbre descend profondément en terre, plus il est fort. La Bible nous compare à des palmiers. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà fait une différence entre un palmier et un cocotier? Un palmier, il grandit droit, costaud, fort. Et il résiste aux tempêtes, aux cyclones. Un cocotier, il est tordu, penché, comme il veut, mais il perd sa tête au moins de cyclone. Nous sommes des palmiers, forts, ancrés, assis en Christ. Que Dieu nous aide et veillons à notre assise pour que nul ne tombe profondément dans un sommeil alors que nous devons être éveillés car les temps sont difficiles. Amen. Que Dieu nous garde, nous fortifie.